âme sans passé, les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire. Depuis la nuit des temps, les femmes, nous sommes le continent noir. Nous femmes esclaves et brisons nos entraves. Debout, debout, asservies, humiliées, les femmes achetées, vendues, violées. Dans toutes les maisons, les femmes hors du monde. Malheur, les femmes, l'une de l'autre ignorées. Ils nous ont divisés, les femmes, et de nos sœurs séparées. Levons-nous, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout. Le temps de la colère, les femmes, notre temps est arrivé. Connaissons notre force, les femmes, découvrons-nous des milliers. Levons-nous, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout. Reconnaissons-nous, les femmes, parlons-nous, regardons-nous. Ensemble, on nous opprime, les femmes, ensemble, révoltons-nous.
Sera féministe sur Radio Galère. Mince, j'ai l'impression que ça marche pas. Ah, c'est pas vrai. Alors, la révolution sera féministe sur Radio Galère. Voilà, j'ai dû changer de micro parce que je pense que ça marchait pas. Je comprends pas bien pourquoi d'ailleurs. Alors, j'ai un problème de micro. Donc je vais remettre la musique, je comprends pas ce qui se passe. Ah.
Non, ça marche pas.
Ah bon ? Ah bon. Excusez-moi parce que je comprends pas ce qui se passe. Pourquoi ça ? Ah. OK. Bon, je Ok, je ne sais pas ce qui se passe parce que voilà, j'ai le technicien qui m'aide. Je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas le retour pour comprendre si on m'entend. Il me dit qu'on m'entend, mais je n'ai pas... Voilà, excusez-moi. Ok. Bon. Bon. Donc, je vais commencer. Voilà, ça y est, ça marche. Désolée pour ce contretemps. Je vois enfin l'enregistrement du futur podcast. Donc, je n'étais pas rassurée. Tant que je ne voyais pas ça. OK. Voilà, donc je vais pouvoir commencer. Merci de votre patience. Donc, pour commencer, je vais revenir sur de combien coûtent les inégalités femmes-hommes. Eh bien, elle coûte 118 milliards d'euros chaque année à la France. Comportement viril, inégalité économique, violence, santé, l'Institut Genre et Statistique révèle l'addition avec la Fondation des Femmes à l'occasion de sa campagne « Écoutez-nous bien » qui est adressée aux candidates et candidats à l'élection présidentielle. Ce qui n'est pas compté ne compte pas. Parce que les grands instituts de statistiques nationaux ne chiffrent pas vraiment les conséquences de la culture patriarcale sur l'économie, les associations ont décidé de mettre à jour cette impensée de la politique. Pour estimer le coût global des inégalités et les dommages collatéraux de la virilité sur l'économie en France, la Fondation des Femmes fait appel à un institut qui s'appelle l'Institut Genre et Statistique. C'est un institut qui est nouveau, qui est récent et qui a été fondé par Lucille Pétavin, qui est assez spécialiste du sujet, puisqu'elle est autrice d'un livre dont j'avais parlé dans un précédent podcast et qui je vous encourage à lire, qui s'appelle « Le coût de la virilité, ce que la France économiserait si les hommes se comportaient comme les femmes ». Il a été publié il y a un an aux éditions Carrière. Et donc cet institut est fondé, je vous disais, par Lucille Pétavin et aussi par une autre femme, Ginevra Bersani, qui étudie de près la génération Z. D'après leurs calculs, le montant de cette facture donc s'élèverait, je vous l'ai dit tout à l'heure, à 118 milliards d'euros. Les chercheuses rappellent que le rapport Psytel évaluait déjà en 2012 le coût des violences conjugales à 3,6 milliards d'euros par an. Il y aurait 89,3 milliards qui sont liés au comportement viril. Ce chiffre est basé sur la surreprésentation des hommes dans les comportements asociaux, homicides, viols, délinquance ou insécurité routière. Quand on additionne les coûts de cette violence virile pour la justice, les forces de l'ordre ou l'impact sur la santé des victimes, les chiffres sont vertigineux. Sur la route, par exemple, 84% des accidents mortels sont causés par des hommes. Les hommes représentent 96% de la population carcérale et 83% des mises en cause par la justice. Par rapport aux inégalités économiques, 22,15 milliards sont liés à ces inégalités. Il s'agit des inégalités de salaire et surtout de niveau d'activité et de création de richesses dont se prive la société. Ce chiffre est tiré des études de l'Organisation internationale du travail, qui estime à 5,53 milliards d'euros par an les gains produits par une réduction de 25% de l'écart du taux d'activité entre les femmes et les hommes d'ici 2025. Enfin, l'Institut Genre et Statistiques note que sur ces 118 milliards, 3,6 milliards sont liés à la santé. Mais ce chiffre reste à affiner. Si les conséquences néfastes des stéréotypes de genre qui affectent la recherche biomédicale et la prise en charge des patientes sont bien identifiées par des organismes tels que l'INSERM ou le HAS, aucune étude n'a encore calculé les coûts engendrés. En revanche, l'étude identifie clairement des surcoûts qui résultent des stéréotypes de sexe. En moyenne, par an, 140 euros pour la contraception, 103 euros pour les sous-vêtements, jusqu'à 900 euros de produits de santé, 5 euros pour les hommes. Non, des produits de beauté, pardon. Et l'étude ne compte pas les coûts de protection périodique, 104 euros par an en moyenne, car ce coût n'est pas un effet du patriarcat. Si les inégalités ont un coût pour la société, les femmes en payent aussi le prix à titre individuel. Un viol peut coûter à la victime entre 1000 et 60 000 euros selon les estimations, et 87% des victimes sont des femmes. Les inégalités salariales coûtent 5 420 euros par an aux femmes en moyenne. Et en couple, le coût pour ces dernières est de 25 169 euros par an, lié au travail invisible et aux injonctions à la beauté notamment, ce qu'explique donc Lucille Pétavin. La chercheuse cite aussi l'ouvrage de Lucille Quillet, « Le prix à payer, ce que le couple hétéro coûte aux femmes ». Donc c'est le nom du livre, de l'ouvrage de Lucille Quillet, qui démontre à quel point les hommes s'enrichissent quand les femmes s'appauvrissent avec des carrières hachées, des temps partiels, des salaires moindres, pendant qu'elles passent du temps à effectuer du travail gratuit pour le bien de la société. Elles perdent des revenus, des opportunités de carrière, du capital, tandis que les hommes s'enrichissent et coûtent bien davantage. Donc ce message « Écoutez-nous bien » a été donc adressé par des associations féministes aux candidates et candidats à la présidence de la République et les invite à faire baisser le coût de la virilité pour la société en entreprenant des politiques économiques féministes. Alors du coup, je vais enchaîner sur à peu près le même sujet. Quelles sont les propositions des associations féministes pour un quinquennat féministe ? Donc, il y a eu des propositions, notamment de Oser le féminisme et d'un collectif féministe qui s'appelle Ensemble contre le sexisme. Donc j'ai fait une espèce de, enfin une synthèse de ces propositions de toutes ces associations, donc du collectif et de Oser le féminisme. Donc politique, économie, violence, éducation, travail, sport, santé, le collectif contre le sexisme, dont Catherine Ladouce est coprésidente avec Moira Sauvage, ont un objectif clair qui rassemble plus de 40 associations féministes, interpeller les futures candidates et candidats à l'élection présidentielle pour que le prochain quinquennat soit féministe. Pour faire de cette ambition une réalité, donc il y a eu toutes ces propositions, voilà, qui ont été présentées le 25 janvier dernier. Voilà, donc par contre, bon, donc je vous explique ces propositions parce que je les trouvais intéressantes et parce qu'on voit qu'il existe des solutions pour les associations féministes. Malheureusement, elles ne sont pratiquement pas entendues, elles n'ont pas été entendues pendant ce quinquennat. Donc, première chose la plus importante, la plus grave, donc c'est les associations féministes déplorent le manque de moyens consacrés à l'égalité par l'État. Il faut savoir que le budget du ministère chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes est le plus petit du gouvernement, avec seulement 50 millions d'euros par an. Donc malgré tout le blabla et la propagande du gouvernement, comme quoi ça serait la première cause, eh bien c'est le budget le plus petit consacré à l'égalité. Donc les associations demandent 1 milliard d'euros pour lutter contre notamment les violences conjugales et aussi une formation nécessaire, indispensable de tous les professionnels, aussi des hébergements, un accueil, une orientation, une prévention, un éloignement du conjoint violent, un accompagnement juridique, médical et psychologique des victimes, quel que soit leur âge, etc. Tout ça pour pallier à une justice complètement dysfonctionnelle et je dirais même gangrénée par la culture patriarcale et même la culture du viol dans tous les derniers podcasts quand je vous parle tellement régulièrement de tous les cas de femmes qui ne sont pas protégées, qui n'obtiennent pas justice lorsqu'elles déposent plainte, que ce soit contre un viol ou contre de la violence. Deuxième point demandé par les associations féministes, justement par rapport aux crimes sexuels. Donc, je vous disais, je viens de vous parler des viols où on a une impunité totale des violeurs, des viols adultes. Donc, il y a une impunité avec 1% seulement, je rappelle, des violeurs qui sont punis en tant que crime de viol. Et pour les enfants, c'est encore plus désastreux avec 0,2% des violeurs punis. Donc, les associations demandent la reconnaissance de l'amnésie traumatique et qui donc empêche souvent les victimes de pouvoir porter plainte, qui elles ont souvent besoin de nombreuses années, et aussi l'imprescriptibilité des crimes sexuels sur mineurs. Elles demandent aussi la révocation de tout élu politique condamné pour violence. Elles demandent aussi une politique abolitionniste de la prostitution, de la et la lutte contre la porno-criminalité, donc la lutte contre la porno-prostitution, l'exploitation sexuelle et la marchandisation des femmes. Ensuite, un point important, une santé féministe des femmes, instituer un financement qui serait dédié à la recherche sur les spécificités à raison du sexe et du genre de la santé des femmes, à la fois en matière de prévention et de traitement. Rembourser intégralement toutes les contraceptions, par exemple. Demander un droit à l'avortement effectif pour toutes à inscrire dans les droits fondamentaux de l'Union européenne. Oser le féminisme insiste aussi sur ce point en demandant une gynécologie sans sexisme. Car le sujet aussi des violences concernant des violences obstétricales est un vrai sujet aussi. Alors ensuite, sixième point fondamental aussi, c'est une éducation. Tout passe par là aussi, évidemment. Une éducation non sexiste de la petite enfance à l'université, qui n'existe pas du tout actuellement. L'obligation d'une juste représentation aussi des femmes et des hommes dans les manuels scolaires. On demande ça. Aussi, Cela va aussi avec inscrire le matrimoine, au même titre que le patrimoine, dans les programmes scolaires et universitaires dans l'espace public et en particulier lors des journées européennes dites de patrimoine. On aimerait qu'il y ait aussi le matrimoine. Alors ensuite, pour lutter contre le sexisme et les stéréotypes, Ensemble donc contre le sexisme, demande de focaliser aussi cette lutte, notamment dans l'audiovisuel, dans les médias, de demander une parité des expertises dans les médias, de lutter contre l'agisme, d'améliorer la représentation des femmes de plus de 50 ans, en particulier dans les fictions, où on a, de demander la présence des femmes aux heures de grande écoute, et d'ajouter le secteur du numérique aux compétences du CSA en ce qui concerne la représentation des femmes. Ensuite, par rapport aux politiques économiques, justement d'inégalité économique, une revendication féministe est d'individualiser l'impôt et revaloriser des allocations familiales, réformer le système fiscal et social qui actuellement pénalise en particulier les femmes en couple à faible ou sans revenus et les mères séparées. Donc, demander la déconjugalisation de l'AAH, de l'ASF, une réforme de l'impôt sur le revenu, etc. Ensuite, demander aussi que les pensions alimentaires soient payées et ne soient pas imposées. Ensuite, une politique féministe est demandée par rapport au service public de la petite enfance. Donc, on demande aussi d'élargir à 28 jours le caractère obligatoire du congé paternité afin de favoriser dès la naissance de l'enfant le partage des tâches parentales à égalité entre les parents. Ensuite, dans le monde du travail, faire du monde professionnel une zone sans sexisme en demandant des formations, en assurant une parité, une égalité salariale. Oser le féminisme ajoute au niveau de ça, de revaloriser, et c'est très très important effectivement, les métiers dits féminisés, de faire une refonte du système de classification des métiers pour assurer l'égalité salariale à poste de travail égal et à valeur égale. Voilà. Alors, je vais poursuivre sur un feumage à une association féministe. Enfin, c'est pas vraiment des associations. Enfin, bon, je vais vous expliquer. En fait, c'est par rapport au groupe de féministes radicales qui s'appelle les Amazones. Donc, je vais vous expliquer qui elles sont. Donc, je pense à elles et à toutes leurs actions et je voudrais les saluer dans leur lutte. Donc, en fait, les Amazones sont issues des collages féministes qui ont été créés par Marguerite Stern, donc, qui est l'instigatrice des collages contre les féminicides. Donc, je vais d'abord vous faire un tout petit portrait de Marguerite Stern, qui est une ex-fémène et qui a créé les collages contre les féminicides. Il faut savoir que, entre parenthèses, les féminicides n'ont toujours pas de statut juridique. Donc, Marguerite Stern est une femme d'action avant tout. Elle s'est rapprochée des fémènes, qui est un mouvement féministe né en Ukraine en 2008. Elle a contacté Ina Shevchenko, qui est la représentante de ce mouvement à l'international. Et elle s'est installée dans leur QG au Lavoir Moderne, dans le quartier de la Goutte d'Or, au 18e, un squat installé dans un ancien théâtre. Elle a à ce moment-là gardé toujours un rapport particulier avec ses logements précaires, qu'elle retrouvera plus tard à Clichy, toujours avec les fémènes, puis au Jardin d'Enfer, dans le 14e, lors de sa création donc de ce mouvement de collage contre les féminicides. Elle disait « c'est un premier pas vers la rue, une façon de reconquérir du terrain, de se réapproprier un lieu que les hommes dominent légèrement. » Généralement, pardon. Ma langue a fourché. En 2012, Marguerite Stern a procédé à sa première action fémène contre IKEA parce que l'enseigne avait retiré les femmes des pages de son magazine qui étaient destinées à l'Arabie Saoudite. Marguerite Stern est athée, insurgée, anarchiste. Et à l'époque, donc les arguments des femmes l'intéressent particulièrement puisque les femmes se battent contre l'industrie du sexe, prostitution, pornographie, contre la GPA, donc l'exploitation reproductive des femmes, et aussi contre toutes les institutions religieuses et toutes les formes de dictature qui la séduisent. Elles se sentent appartenir à un groupe. Donc je fais une parenthèse sur le fait que ce sont exactement les valeurs dans lesquelles je me retrouve. Et donc, dans ce feumage aux Amazones, à Marguerite Stern et aux Femmes, je m'y retrouve complètement. En mai 2013, Marguerite Stern et deux autres Femmes sont incarcérées en Tunisie pour avoir manifesté contre l'arrestation d'une militante féministe tunisienne, Amina Zboui. Elle restera enfermée pendant près d'un mois et donc sera très marquée par cette expérience. Elle dit « Nous étions 28 dans la cellule ». Ces autres femmes purgeaient des peines bien plus longues pour des faits mineurs, avoir fumé un joint, commis un adultère, fait un chèque en blanc, et puis une qui avait tué son mari. 3 années durant, elle enchaîne les manifestations dans les rues, sur les places, avec les femmes, jusqu'à l'attentat terroriste contre Charlie Hebdo le 7 janvier 2015, qui ébranle profondément les femmes, et Marguerite, visiblement, est très émue donc, par rapport à cet attentat. C'est très important. Donc elle dit « On avait cette proximité de frères et sœurs de lutte. À peine quelques semaines auparavant, Ina et Charb comparaient leurs menaces de mort, qui étaient à peu près similaires. J'ai vécu leur mort comme une défaite. » Puis Marguerite Stern quitte les Femmes, le squat et Paris. Elle passe plusieurs mois dans la jungle de Calais, où elle donne des cours de français à de jeunes migrants. Puis elle débarque à Marseille, donc elle est passée effectivement par Marseille et je l'avais croisée et puis avant qu'elle reparte à nouveau pour Paris. Donc elle débarque à Marseille dans les quartiers où elle loge pendant plus de 2 ans, au Panier, au quartier Nord. Elle retrouve le harcèlement de rue qu'elle avait connu notamment à Bruxelles. Pas question de rester passive, très peu pour elle, et donc elle décide d'investir à sa manière l'espace public. C'est alors qu'elle achète des feuilles A4, de la peinture acrylique noire, et à la tombée de la nuit, un soir de février 2019, elle va faire son premier collage sur les murs d'un bâtiment SNCF, et elle écrit cette phrase. Depuis mes 13 ans, des hommes commentent mon apparence physique dans la rue. Un mois plus tard, elle consacre un collage au nom de Julie Dwib, une jeune femme corse assassinée par son ex-compagnon, alors qu'elle avait déposé plainte à 6 reprises. Là, je fais aussi une parenthèse par rapport à Julie Dwib. Il y a eu très récemment sur M6, vous l'avez peut-être remarqué, écouté et suivi, un film consacré donc à Julie Dwib et aussi à Laura Rapp. Qui a échappé, donc Laura Rapp a échappé, elle, à un féminicide de justesse, puisqu'elle a été étranglée par son ex-compagnon de l'époque. Et quelques secondes plus tard, elle risquait la mort. Donc c'est un reportage. Il y a une soirée, donc M6, avec un film. Et puis ensuite, un autre reportage sur Laura Rapp, qui était très intéressant. Donc je vous encourage aussi à regarder ce reportage. Donc c'est très... Enfin, depuis, donc, Laura Rapp se bat évidemment pour la justice, pour obtenir justice contre les violences conjugales intrafamiliales. Et voilà, donc son histoire est vraiment impressionnante, justement, d'un parcours de non-protection et d'injustice. Puisque, son compagnon, dont je vous ai dit, avait failli l'étrangler. Elle a été sauvée de justesse par des voisins qui sont intervenus et qui lui ont sauvé la vie à ce moment-là, puisque son ex-compagnon a arrêté de l'étrangler. Du coup, elle s'est défendue. Il a été placé en garde à vue, il a été emprisonné, mais il est ressorti seulement quelques mois après, 9 mois après, sans qu'elle ait même été prévenue de sa sortie. Et c'est à ce moment-là que, affolée pensant qu'il allait forcément repenser à la tuer. Et c'est souvent comme ça que ça se passe. Et qu'elle n'avait aucune façon de se protéger. Elle a alerté sur les réseaux sociaux en lançant des tweets. Et cela a fonctionné puisque cette alerte, du coup, des journalistes se sont intéressés à cette question, etc. Et cette ex-compagnon a été replacée en prison. Voilà, donc je vous encourage à voir ce documentaire. Donc je reviens à Marguerite Stern. Donc je vous dis, donc j'en étais à ses collages, donc qu'elle a commencé donc en 2019. En février 2019, son premier collage. Un mois plus tard, donc le collage au nom de Julie Dweeb. Il y a eu, par rapport à Marguerite Stern, un documentaire qui est sorti récemment, qui est passé aussi notamment à l'Alhambra, et qui s'appelle « J'irai crier sur vos murs » de Élodie Sylvain et Charlotte Rico, et qui retrace un peu ce qui se passe à Marseille au niveau des collages. Et heureusement, et bien entendu, le premier portrait est celui de Marguerite Stern. Donc j'ai aussi regardé ce documentaire. Du coup, je vais vous citer un petit peu ce que disait Marguerite Stern dans ce documentaire à propos de ses collages. Elle disait « Dans la rue, on m'empêchait d'être quelqu'un, je me sentais entravée. L'intime est politique, surtout quand on parle des violences sexistes. Sur les féminicides, elle dit « Plus on lit là-dessus, plus ça fout la rage. L'État, par son inaction, nous force à rentrer dans l'illégalité. Il y a eu tant de manifs pacifiques, légales, à coups de hashtag, il y a eu tant de conférences, du travail de terrain. Mais cela n'a rien donné puisque juste des coups de com' comme le Grenelle pour nous faire croire que l'État fait quelque chose, mais rien n'a été fait. Alors qu'on sait parfaitement quoi faire. Les collages sont donc nécessaires. En faire deux ou trois, ça ne suffit pas. Il faut que les rues soient inondées, que les gens soient obligés de voir ces messages. Tout le monde est concerné, tous les milieux. Il faut aller partout. Les féminicides ne sont pas des crimes passionnels, mais des assassinats. Le langage est primordial, c'est un enjeu féministe. » Donc, elle cite quelques slogans collés comme collage. Donc, par exemple, un exemple de collage que vous avez pu voir dans les rues, j'espère que vous les voyez. Donc, par exemple, 5 janvier 2021, une femme est brûlée vive par son conjoint. Un autre collage, je l'ai quitté, il m'a tué. Un autre collage, aimer n'est pas posséder. Ou éduquer vos fils. Ou « Pas tous les hommes, mais assez pour qu'on ait toute peur. » Ou « Quand je sors, je veux être libre, pas courageuse. » Ou bien un autre exemple de collage, « Il m'aura fallu du temps pour comprendre que c'était un viol. » Donc dans le documentaire, elle reparle d'un collage qu'elle venait de faire à ce moment-là, au moment du documentaire. Elle avait écrit « Martine, 40 coups de couteau ». Donc c'est pour décrire, rendre hommage à une femme victime de féminicide. Et elle dit, pendant que j'ai collé ça, un mec est passé et il m'a dit, elle a dû bien le chercher, Martine. Donc voilà, et du coup, ce qu'en dit Marguerite Stern, c'est, on est sur le degré zéro du féminisme. On demande juste le droit de vivre. Tout le monde devrait être d'accord. Mais ça n'est visiblement pas évident. Pour tous. Voilà, donc finalement, elle a poursuivi donc ses collages qu'elle avait donc débuté à Marseille et bien décidée à donner de l'ampleur à son mouvement, elle est rentrée à Paris à l'été 2019 et elle a lancé un appel informel. Elle dit « Je pensais que nous serions 15 et nous nous sommes retrouvés à 40 le premier soir. La machine est lancée. Le mouvement collage féminicide monte en intensité et les opérations s'enchaînent. Un mois durant, Marguerite accueille le mouvement chez elle, au squat du jardin d'enfer, achète le matériel, fait le ménage, motive ses équipes, soutient les femmes qui créent des branches dans les villes et les villages français. C'était une véritable usine. Ensuite, elle a une petite période d'épuisement, elle décide de prendre de la distance avec le mouvement, de passer le flambeau. Elle dit « Il me semblait évident que la protestation contre les féminicides pouvait rassembler de nombreuses femmes, quel que soit leur désaccord sur d'autres points. » Jusqu'au moment où des collages sont arrivés qui n'étaient pas des femmes justement ont pris le relais, se sont mis à coller, mais se sont mises à coller sur des sujets complètement éloignés des féminicides et même éloignés du féminisme. Et donc des collages comme des sisters, pas des sisterfs, ou bien une femme trans est une femme. Aux yeux de Marguerite, ces revendications trans de l'idéologie du transactivisme prennent une telle ampleur qu'elles en viennent à invisibiliser les problématiques liées aux violences contre les femmes. Et de son côté, le mouvement des collages qu'elle avait initié exclut peu à peu toutes celles qu'il considère comme des TERFs, donc qui en fait est une façon de silencier les féministes radicales en réalité. Donc il les traite de transphobes parce qu'elles n'adhéreraient pas à l'idéologie du transgenrisme. Donc je reviendrai sur ça tout à l'heure. En tout cas, ce qui se passe pour Marguerite Stern, c'est qu'à ce moment-là, le 22 janvier 2020, elle publie un thread sur Twitter. Et elle dit « De nombreuses branches n'hésitent pas à faire des collages sur des sujets clivants dans le féminisme, se positionnant clairement du côté intersectionnel et excluant de fait les féministes universalistes. » À ce moment-là, le débat fait rage autour de la définition du mot « femme » qui, pour les féministes intersectionnelles, se résume à « est femme toute personne qui se sent femme ». Pour Marguerite, on ne peut pas définir un mot par ce même mot. Elle pointe du doigt les dérives orwelliennes du transactivisme qui voudrait introduire un nouveau vocabulaire plus inclusif en disant au lieu de dire « femme », on va dire « personne à vulve » pour inclure les hommes identifiés « femmes trans ». Du coup, elle réagit, elle dit « je ne suis pas une personne à vulve, je suis une femme, je suis née femme et avant même ma naissance, dans le ventre de ma mère, j'ai subi des discriminations de ce fait. J'ai subi des choses qu'un homme qui voudrait devenir une femme ne pourra jamais appréhender ». Donc c'est après ces tweets qu'elle a fait à ce sujet qu'on lui colle alors l'étiquette de féministe transphobe sur le front, comme J.K. Rowling ou Dora Muto, notamment créatrice du compte Instagram Tajoui. Elle reçoit alors des insultes et menaces en tout genre, appels au viol, au meurtre, des violences physiques. Elle reçoit un œuf dans la figure en pleine manifestation féministe, notamment manifestée contre la porno-prostitution. Elle se voit boudée par une majorité des organes de presse, parce que soi-disant problématique. En septembre 2020, elle décide de publier son livre chez Michel Lafon, donc « Héroïne de la rue ». Et du coup, elle est censurée, donc personne n'a accepté d'en parler. Une déferlante qui dure encore et qui a valu à Marguerite Stern un séjour en hôpital psychiatrique de 6 semaines en décembre dernier. Donc vous pouvez trouver son livre « Héroïne de la rue » et aussi une série de podcasts qui sont disponibles sur son site que je vous encourage à écouter, où notamment il y a de nombreux témoignages de survivantes de la porno-prostitution qui sont très intéressants. Du coup, je vais poursuivre donc la suite, si vous voulez, donc de ces collages qu'elle a voulu initier et transmettre aux femmes, étant donné qu'ils ont été instrumentalisés et repris par l'idéologie du transactivisme. Ensuite, elle a initié donc un autre groupe de féministes radicales qui s'appelle les Amazones. Et donc, 40 femmes se sont réunies à l'été 2020 à Paris pendant 2 mois dans un squat, dans un immense hangar, pour fédérer donc des femmes de tout horizon sur les thèmes notamment toujours des féminicides, des violences conjugales, des violences sexuelles, du harcèlement de rue. Donc, ces femmes sont issues du mouvement collage contre féminicide par Marguerite et ont essaimé pour constituer des groupes de féministes radicales. Donc vous pouvez voir dans différentes villes, notamment à Avignon, par exemple, il y a des Amazones. Je salue notamment, par exemple, Blandine Desanges, qui en fait partie. Alors du coup, je vais vous lire le manifeste de ces féministes qui s'appelle Amazones. Et puis, je terminerai aussi par une action remarquable qu'elles ont eue. Donc, voici le manifeste féministe des Amazones qu'elles ont écrit pour se définir. Les Amazones aiment s'exprimer à la féminine universelle, outil de langage inventé par Tiffany et qui remet les femmes au centre de leur mode d'expression. Les Amazones aiment beaucoup lire Valérie Solanas, qui a écrit le Scum Manifesto, et Andrea Dworkin, qui est très très grande féministe abolitionniste. Les Amazones sont des activistes. Les Amazones croient en la vertu de l'action, et particulièrement de l'action de rue. Se réunir pour parler est excellente et nécessaire pour construire une pensée construite. Agir ensemble physiquement est une expérience vitale et réparatrice. La pensée se développe aussi dans l'action. Puisque les institutions républicaines n'écoutent pas les femmes et leur révoltent contre les horreurs que leur font subir les hommes. Les Amazones forcent la société civile à les entendre en allant afficher leur indignation directement dans l'espace public. En allant coller ensemble des messages en fumage à nos sœurs assassinées et aux vivantes, nous devenons de véritables sœurs de lutte pour toujours. Cet geste nous lie. Le collage de rue est une méthode d'action récurrente des Amazones, mais elle n'est pas la seule. Les Amazones sont des justicières, et puisque le patriarcat existe partout, elles seront susceptibles d'agir à chaque endroit pour demander justice pour les femmes. Pour cela, elles pourront utiliser toutes les tactiques qui leur semblent légitimes et justes. La transmission est l'une des valeurs chéries des Amazones. Les femmes ont trop longtemps été coupées de leurs prédécesseuses, et elles y ont beaucoup perdu. En les effaçant de l'histoire et en les dressant les unes contre les autres, les hommes ont réussi à nous déraciner de nous-mêmes. C'est pourquoi nous valorisons particulièrement l'apprentissage à travers nos sœurs de lutte. C'est pourquoi nous nous reconnaissons dans ce mot « Amazone » qui fait écho à nos ancêtresses guerrières. Chacune des Amazones est légitime à s'exprimer publiquement sur son expérience au sein du mouvement et les actions menées. Elle n'y a pas de porte-parole. Dans aucun groupe des groupes d'Amazones, il ne doit pas y avoir de hiérarchie stricte. Nous nous attachons à écouter et à apprendre les unes des autres. Considérer la parole des autres femmes ne nous diminue pas. À la contraire, c'est là que nous puisons notre force. Les Amazones sont radicales. Elles se reconnaissent majoritairement dans la féminisme radical. C'est-à-dire que nous prenons les problèmes à leurs racines. C'est pourquoi nous sommes abolitionnistes de toutes les violences commises par les hommes envers les femmes, féminicides, violences sexuelles, qu'elles soient tarifées ou pas dans la prostitution, la pornographie, BDSM, etc. La liste est longue. Nous nous dressons contre l'érotisation des violences masculines. Les hommes ne nous tuent pas par amour, ils n'achètent pas les services des filles de joie, ils nous assassinent, ils nous violent. Parce que de tout temps, les hommes ont tenté de nous contrôler par le sexe, qu'ils soient récréatifs, reproductif, nous n'admettons pas dans la définition de ce qu'est une femme les êtres pourvus d'un pénis à la naissance. Néanmoins, nous accueillons toutes les femmes en questionnement sur ce sujet. Les Amazones sont universalistes. Nous luttons pour les droits des femmes de la terre entière. Elles sont toutes nos sœurs. Nous soutenons toutes les femmes oppressées et prenons en compte l'individualité et l'histoire de chacune d'elles. Nous considérons que nos droits doivent être respectés partout, de manière égale, et que l'argument de la culture ne saurait justifier aucune oppression. Les Amazones sont des... universalistes. Puis, les Amazones sont des pécheresses de la religion patriarcale. Et là, je m'y reconnais aussi tout à fait. Toutes les religions sont misogynes. L'esthétique. Les Amazones accordent une importance particulière à l'esthétique de leurs actions. Elles communiquent par l'image, par la mise en scène, par la création de tableaux vivants dans les rues. Elles ont pour arme des émotions que les hommes confisquent aux femmes, comme la joie, le rire, la colère. Elles ne se soumettent pas à l'injonction d'être polies et souriantes. Les Amazones sont drôles, fières et indignées. Elles prennent de la place, elles parlent fortes. Voilà, donc je vais faire une petite pause musicale. Ça fait un bout de temps que je parle. Donc, petite pause musicale avec Ne me jugez pas de Camille Lelouch.
Et toutes mes impostures, mes excès de folie qui abîment mes nuits, vos regards sur moi, vous qui me jugez vide, vous qui ne me connaissez pas, même si vous dites que oui. Où êtes-vous quand je pleure toutes les nuits, quand je crie en silence, quand je tombe dans le vide, que mon frigo est vide. Faites-vous mine de rien voir, avez-vous peur du noir? Ne me jugez pas, c'est trop facile quand on ne sait pas. C'est trop facile quand on ne voit pas. Ne me jugez pas. Ne me jugez pas. C'est trop facile quand on ne sait pas. C'est trop facile quand on ne voit pas. Ne me jugez pas. Mes éclats de rire, mes blagues continues vous animent, vous font vivre ce que vous êtes tordu. Mettez-vous à ma place un moment et voyez ce que j'endure souvent. Je ne veux plus faire semblant d'être heureuse devant vous, que ça vous plaise ou non. Ben tant pis, je m'en fous, vous m'aimerez comme je suis ou peut-être pas du tout, je m'en fous. Ne me jugez pas, c'est trop facile quand on ne sait pas. C'est trop facile quand on ne voit pas. Ne me jugez pas. Ne me jugez pas. C'est trop facile quand on ne sait pas. C'est trop facile quand on ne voit pas. Ne me jugez pas. Ne me jugez pas. C'est trop facile quand on ne voit pas. C'est trop facile quand on ne voit rien. Ne me jugez pas.
La révolution sera féministe sur Radio Galère. Donc je reprends, je viens de vous parler donc des Amazones. Et voilà, il y a une action qu'elles ont. Donc, je vous ai parlé des collages, hein, qui sont très importants pour prendre possession de l'espace public, pour voilà, pour influencer donc sur voilà. Et il y a une action. Elles font aussi donc des actions, pas seulement des collages, comme elles ont dit dans le manifeste. Donc une action qui est importante que j'ai relevée est celle du 19 février dernier. Les Amazones se sont rendues dans le 14e arrondissement de Paris devant la boutique officielle de Jackie et Michel, célèbre pornographe prétendument amateur, mise en cause dans le scandale historique du procès contre la pornographie, avec 50 plaintes de femmes victimes, avec des producteurs et acteurs du porno, Pascal Oppé et son site French Buckcake. Depuis juillet 2020, 12 hommes, producteurs, entre guillemets acteurs, et rabatteurs des femmes qu'ils piègent donc, dans la pornographie, de l'industrie pornographique française, ont été mis en examen pour viol et placés en détention provisoire, pour proxénétisme aggravé et traite d'êtres humains. Les activistes de l'Amazone ont alors réalisé une performance reflétant le contenu des vidéos produites par ces criminels. Elles ont mis en scène leurs fantasmes, l'humiliation sexuelle des violeurs mis en examen, représentés par 3 mannequins masculins. Elles ont détourné les codes de French Buckcake en écrivant « Gros macho, bois monstru de féministe radicale, mec chauve se fait limer la bite ». Elles ont souillé de leur sang menstruel les violeurs avant de les défoncer et de leur couper le sexe. Lorsque ces violences sexuelles sont exercées sur les filles et les femmes, le monde détourne les yeux et parle de fantasmes, de fétiches, de libération sexuelle et de consentement. En inversant les rôles, les Amazones dénoncent l'horreur, la haine et l'humiliation que ces vidéos porno font subir aux femmes. Les Amazones rappellent que la pornographie n'est ni du sexe, ni du cinéma. Les actes sont réellement exécutés et donnent donc lieu à des traumatismes de violence et de viol. Le fantasme de ces actes n'est pas légitime et intime, mais haineux, violent et porteur d'une volonté de destruction des femmes. L'industrie ne cache d'ailleurs pas cette violence sur laquelle elle est fondée, comme nous le prouvent les titres explicites des vidéos. Exemple, deux lesbiennes violées et assassinées. Bondage rugueux, fisting et sperme sur une écolière. Ou encore, mère baisée en larmes, pleurant de douleur jusqu'à ce qu'elle force à gicler. Les pratiques les plus populaires sont la double pénétration anale, la double pénétration vaginale, le ass-to-mouth, le gaging, le buttcake. Buttcake, c'est des viols collectifs en fait. Ces violences sont présentes dans 88% du contenu pornographique disponible aujourd'hui. Nous exigeons la fin immédiate de l'impunité de tous les criminels de l'industrie pornographique, producteurs, acteurs, hommes, amateurs et professionnels, rabatteurs, techniciens sur les tournages, ainsi que tous les consommateurs qui recherchent avidement ces contenus. Nous attendons de ce procès la révélation des tortures et crimes organisés sur les tournages, la reconnaissance par la justice de la qualification pénale de la pornographie, viol en série, proxénétisme, traite humaine et torture sur les femmes, ainsi que des peines exemplaires pour chacun des participants directs et indirects à ces crimes. Nous appelons les médias, les responsables politiques, ainsi que toute la société civile à nommer la pornographie pour ce qu'elle est et à reconnaître la responsabilité des consommateurs de ces contenus qui se masturbent sur des violences sexuelles. Voilà, donc je salue l'action donc, des Amazones pour lutter contre la porno-prostitution. Et du coup, je vais enchaîner sur un audio donc de Céline Pic, qui est présidente de Oser le féminisme. Et j'ai récupéré cet audio donc dans une conférence qui a été organisée par l'Assemblée des femmes, qui s'est faite à Nice et qui avait donc pour intervenante notamment Céline Pic pour parler de la pornographie, de la lutte contre la pornographie. Ensuite, Maud Olivier pour parler de l'abolition de la prostitution. Et il y avait aussi une représentante de l'Amicale d'Uni. Et donc, c'était un peu pour faire le point par rapport à la lutte pour l'abolition, par rapport à la loi et la mauvaise application de cette loi, où on a un manque flagrant politique pour faire appliquer cette loi. Et là, je vais vous passez l'intervention donc de Céline Pic qui va justement vous parler de ça a rapport donc avec l'action des Amazones, donc le grand procès dont on attend beaucoup. Voilà, donc je vous la laisse écouter.
Merci d'avoir rappelé que la non-marchandisation des corps est un thème civilisationnel universel, que la prostitution n'est en aucun cas un travail, qu'elle est une inégalité totale entre les femmes et les hommes, qu'elle fait partie intégrante de la culture du viol, et que la sexualité des femmes a longtemps été placée sous silence au profit des hommes. Nous allons maintenant voir avec Céline Pic comment la sexualité des femmes est exploitée, rabaissée dans l'industrie pornographique, et comment les méthodes de cette industrie sont identiques à celles des réseaux de traite des êtres humains. Céline, tu es économiste, porte-parole de l'association féministe Oser le féminisme, qui est une association abolitionniste engagée dans la lutte contre le système prostitutionnel. Et pour renforcer cette lutte, elle agit contre la traite humaine dans l'industrie pornographique. Tu viens de publier un essai percutant intitulé « Déviriliser le monde, demain sera féministe ou ne sera pas » aux éditions Rue de l'Échiquier, dont je vous recommande vivement la lecture en cette période électorale. Dans ce livre qui est un manifeste, tu parles notamment de la lutte contre les violences masculines et contre les violences prostitutionnelles et pornocriminelles. Tu nous donnes aussi des recommandations concrètes pour que les femmes puissent réapproprier leur corps et leur vie. Le proxénétisme a pignon sur rue dans le porno, car on nous explique que c'est du cinéma. Ce qui revient à glamouriser le porno, dis-tu, alors qu'il est un mode d'emploi pour les violeurs, et tu t'inquiètes pour la jeune génération. Pourquoi est-il urgent de lutter contre la pornocriminalité ? Comment le faire d'un point de vue juridique, féministe, alors que des procès sont attendus avec des victimes de viols dont certaines sont mineures, et quand les vidéos de leurs viols circulent peut-être ad vitam aeternam sur les plateformes ? Comment faire de la prévention des violences sexistes et sexuelles alors que le porno est consommé en masse et qu'il a un impact sur nos sexualités et sur les relations entre les filles et les garçons ? Merci beaucoup de nous éclairer sur ces questions.
Bah, merci beaucoup. Je suis bien entourée avec quand même Maud Olivier et Laurence Rossignol à côté de moi. C'est vraiment un honneur d'être avec vous ce soir. Moi, je vais effectivement vous parler de cette question d'industrie pornographique. Et je vais quand même déjà essayer de contextualiser pour dire déjà où nous en sommes aujourd'hui et ce que fait aujourd'hui l'industrie pornocriminelle. C'est comme ça que je l'appelle et qu'on devrait tous et toutes l'appeler quand je vous aurai un petit peu expliqué l'ampleur des procès qui se préparent et puis la découverte aussi des pratiques de l'industrie proxénète. Vous ne pourrez pas l'appeler autrement. Je vais vous d'abord commencer par vous parler d'un procès osé féminisme et partie civile. Dans ce procès, peut-être que vous en avez entendu parler. Si vous deviez lire un seul article sur ce procès, il y a eu une enquête en 4 volets paru le 15 décembre 2021 dans Le Monde et qui explicite bien aujourd'hui le fonctionnement de l'industrie pornographique. Alors, qu'est-ce qu'il explique ? Je vais vous montrer. Alors, je vais avoir des propos peut-être un petit peu crus, mais je les ai lus devant le Sénat lors de l'audition pour le rapport parlementaire en cours du Sénat. Donc, je pense que je peux aussi l'avoir devant vous. Et je pense que c'est important de dire exactement de quoi on parle et comment aujourd'hui les adolescentes et les adolescents s'éduquent sexuellement. Parce que si l'éducation sexuelle n'est pas faite comme il le faudrait dans l'éducation nationale, clairement aujourd'hui, les jeunes s'éduquent à la sexualité par la pornographie. Alors, comment ça commence, cette histoire de procès ? C'est ce qu'on appelle l'histoire du bukkake. Alors, je pense qu'il faut dire comment ça se passe. Donc, on a aujourd'hui maintenant 50 victimes dans le procès. 50 victimes dans le procès, dont beaucoup ont été victimes. Donc, il y a 50 victimes dans le procès. Il y a 12 producteurs et acteurs qui sont mis en examen pour viol, proxénétisme et traite des êtres humains. Donc, le système, il est toujours le même. Il est le même que dans la prostitution. Des femmes, des jeunes femmes très jeunes, à peine 18 ans, vulnérables, sans le sou, qui sont repérées sur les réseaux sociaux avec des faux profils. Un faux profil féminin qui derrière, bien sûr, c'est un proxénète, un rabatteur, qui va être rémunéré pour ramener à Jackie et Michel de la chair fraîche. Donc, une fois qu'elle est piégée, d'abord, on lui propose une passe en tant qu'escort girl, donc prostitution. Donc, tout de suite, prostitution et pornographie sont liées. Une fois qu'elle a été piégée, on la contraint à un rapport prostitutionnel, mais malheureusement, elle n'est pas payée. C'était un piège, c'est ce qu'on appelle le viol d'abattage. C'est le mot même qui est utilisé par Le Monde dans l'enquête et dans l'article du Monde. Le viol d'abattage, c'est ce qu'utilisent les proxénètes pour casser sa victime. Une fois qu'elle est cassée et qu'elle est déjà vulnérable, elle est déjà sans dessous, elle est violée. Après son viol, elle est encore plus la tête dans le sable. Et c'est à ce moment-là que ce faux profil continue à la manipuler et à lui dire « Ok, tu t'es fait arnaquer en tant qu'escorte, mais j'ai un autre plan, je vais t'emmener sur un tournage porno. » Et cette jeune femme, il y avait ce qu'on appelait la filière de Reims, donc elles étaient recrutées autour de Reims, puis il y a une autre filière de recrutement qui est dans le sud, je ne dirais pas où c'est, mais dans le sud-est de la France, et ces jeunes femmes sont ramenées à Paris sur un tournage. Et sans prévenir, elles sont ramenées, par exemple, sur un tournage de bukkake. Alors, bukkake, qu'est-ce que c'est qu'un bukkake ? C'est un viol collectif. C'est une des pratiques aujourd'hui, il faut voir quand même, bon, on est Moi, j'ai un peu plus de 40 ans, donc je n'ai pas été éduquée par la pornographie sur Internet quand j'étais adolescente, je suis trop vieille. Je pense que vous êtes assez nombreux et nombreuses dans la salle pour être aussi peut-être un peu dépassés par ce qui se passe aujourd'hui sur les sites porno, mais sur Pornhub, par exemple, ce qui est aujourd'hui devenu le mainstream, c'est par exemple une double pénétration, c'est-à-dire deux pénis dans un anus en même temps, ou bien une triple pénétration. Trois pénis dans un même anus en même temps. L'anus se décompose. Dans ces cas-là, il y a également donc le bukkake. Donc, le producteur qui est mis en examen aujourd'hui pour viol, proxénétisme et traite des êtres humains, c'est ça. Donc, en fait, le mercredi, il poste un... Ça, c'est sa bannière Twitter. Ça, c'était sa bannière Twitter avant son interpellation. Je ne sais pas si vous voyez un hangar. Il y a un hangar ici. Peut-être que vous le voyez. Donc, il y a un hangar et il y a une palette. Il y a une palette au milieu, et le mercredi, il pose un tweet et il dit « Venez vous vider les couilles dans une grosse pute. » C'est gratuit. Et là, vous voyez autour, il y a entre 50 et 80 hommes qui viennent, qui mettent une cagoule et qui vont tous passer sur la même femme. Et ça va se finir en éjacule faciale. Donc, tout le monde va éjaculer, les 80 hommes vont éjaculer sur cette femme. On a des témoignages aujourd'hui de femmes dont la peau a été brûlée par les 80 éjaculations faciales simultanées. Ça, c'est ce qu'on appelle un bukkake, c'est le mainstream du porno que vous trouvez sur Pornhub aujourd'hui et pour lequel les producteurs sont en prison. Ça, c'est un producteur qui travaille pour Jackie et Michel et on nous présente ça comme du porno amateur. Ça, c'est vraiment l'horreur au quotidien dont on entend les récits des victimes, des 50 victimes du procès qui va arriver en 2023 et on essaye de nous expliquer que c'est un travail. Ce n'est pas un travail. Ce ne sera jamais un travail. C'est contraire à la dignité humaine. Et aujourd'hui, les pratiques dans la pornographie, et c'est ce qu'on aimerait faire, nous, en tant qu'association féministe, c'est qu'ils sont mis en examen pour proxénétisme, viol et traite des êtres humains. On aimerait également obtenir des qualificatifs d'actes de torture et de barbarie. On en est là. Aujourd'hui, face à nous, on a la justice. On a ce procès. Qui est un procès qui va, je pense, bouleverser complètement le regard complaisant, glamourisant qu'on a aujourd'hui sur la question de la pornographie et de dire ce qui se passe sur cette pornographie. Alors, je vous ai parlé des doubles pénétrations, des triples pénétrations, des bukkakés. Et ensuite, il faut parler aussi des catégories sur Pornhub. Dans les catégories sur Pornhub aujourd'hui, alors Pornhub, c'est une des plateformes. Il y a d'autres plateformes que Pornhub. Il y a X-Alter, X-Video, YouPorn, etc. Mais c'est à peu près... toute la même chose. Une des catégories les plus visitées, c'est une catégorie qui s'appelle teen. Donc teen en anglais, ça veut dire adolescente. Donc, on n'a que des scénarios que les actrices, parce que je mets actrices entre guillemets, j'estime que ce n'est pas des actrices, qu'elles soient consentantes ou qu'elles ne le soient pas, qu'elles aient 18 ans ou qu'elles n'aient pas 18 ans, tous les scénarios sont de l'apologie de la pédocriminalité. Les titres qu'on retrouve en 2 secondes sur Pornhub, c'est par exemple Daddy Fucked His daughter. Papa a baisé sa fille. Ça, c'est dans la catégorie sur Pornhub qui s'appelle Fantasme familial. Fantasme familial, 27 000 vidéos au jour d'aujourd'hui sur Pornhub. Donc, tant qu'on aura une catégorie qui s'appelle Fantasme familial, tant qu'on aura une catégorie qui s'appelle Bukkake, donc viol collectif, tant qu'on aura une catégorie qui s'appelle Teen, on n'arrivera pas à lutter contre les violences sexistes et sexuelles, on n'y arrivera pas. On arrive aujourd'hui à un niveau d'horreur, à un niveau d'apologie de la haine des femmes, d'apologie de la haine misogyne qui n'est jamais inégalée, qui n'a jamais été inégalée. Je pense qu'aujourd'hui, la pornographie est au moins aussi violente que la prostitution où les pratiques des clients prostitueurs sont également violentes. Mais là, en fait, il y a une surenchère. Il y a une surenchère, pourquoi ? Parce qu'il y a un phénomène d'accoutumance. Ça, si vous devez lire un seul livre sur la pornographie, je vous conseille vraiment le livre de Gayle Dines qui s'appelle Pornland, qui l'explique très bien. C'est-à-dire que vous commencez par la pornographie un petit peu soft, vous avez 13 ans, puisqu'il faut voir qu'on a aujourd'hui en France une loi de protection des mineurs qui dit qu'aujourd'hui, les sites devraient mettre en place des contrôles d'âge pour interdire les mineurs d'accéder à la pornographie. Les sites n'appliquent pas la loi. Et le CSA, enfin l'ARCOM ex-CSA, peine, c'est un euphémisme, peine à faire appliquer la loi, ils ne répondent pas aux demandes de mise en demeure, ils ne souhaitent pas, puisque c'est leur fonds de commerce, les adolescents et les adolescentes faire ce contrôle d'âge. Et donc, l'éducation à la sexualité, elle est faite là-dessus. Et donc, vous commencez par quelque chose d'un peu plus normal, je dirais. Et puis ensuite, vous avez une accoutumance à cette violence sexiste et sexuelle. Et ensuite, vous commencez à regarder des choses pour vous exciter. C'est une excitation basée sur la violence. Ça n'a strictement rien à voir avec la sexualité. À des films de plus en plus violents. Donc, grosso modo, aujourd'hui, on estime que le visionnage, l'âge moyen du premier visionnage du porno, c'est 13 ans. Peut-être plus tôt, à partir du moment où ils ont un téléphone portable. La loi de protection des mineurs demandant le contrôle d'âge n'est pas appliquée. Et puis, il y a ces contenus qu'on peut estimer être illégaux. Alors, on a fait un travail horrible. Donc, d'un côté, il y a le procès dont on attend beaucoup. Alors, je vais finir sur le procès, puis ensuite, je vais venir sur l'illégalité des contenus. Ce procès va démontrer que, en fait, l'intégralité de l'industrie pornographique repose sur un système de proxénétisme. D'accord ? C'est comme dans la prostitution. C'est impossible de trouver des femmes qui soient d'accord pour faire ça, sauf si elles ont été piégées, sauf si elles ont été contraintes par une précarité absolue, par une vulnérabilité. Et donc, c'est pour ça que Jackie et Michel, en particulier, faisaient appel à des producteurs comme Matadix ou Pascal Opé, qui avaient des rabatteurs qui permettaient de piéger ces femmes. Donc, le procès va démontrer ça. Et puis, je voudrais revenir aussi sur la question de la définition légale du proxénétisme. Je rappelle que la prostitution, donc c'est l'achat d'un acte sexuel sur autrui, et le proxénétisme, c'est le fait de tirer profit de la prostitution d'autrui. Donc, là, en fait, avec ce procès, on va pouvoir enfin combler une sorte d'aveuglement généralisé derrière ce mot comme ça, totem, qui est cinéma. Pendant très longtemps, on a dit que le porno, c'était du cinéma. Non, ce n'est pas du cinéma, puisque dans le cinéma, les violences sexistes et sexuelles sont simulées. Quand vous avez un meurtre, quand vous avez des coups, quand vous avez des rapports sexuels dans le cinéma, c'est simulé. Quand vous regardez dans la pornographie une femme qui se fait uriner, parce qu'il y a aussi beaucoup d'urophilie, urophilie, voilà, donc urine, mais aussi défécation. Non, il n'y a pas de zoophilie sur les sites officiels, en tout cas. Mais en tout cas, les animaux sont là pour être mieux protégés que les femmes. En tout cas, pas peut-être que pour certains candidats des Verts, ça doit être le cas, en tout cas. Effectivement, toutes ces pratiques ne sont pas simulées. Les coups sont vraiment, ce sont des vrais coups. Les étranglements, ça c'est aujourd'hui quelque chose qui est mainstream. Et vraiment, un de nos premiers objectifs avec ce procès, c'est enfin d'interdire, d'associer le mot pornographie et cinéma. Ce n'est pas du cinéma et les violences sexuelles, les violences physiques sont des violences réelles. Et d'essayer enfin d'ouvrir les yeux et d'avoir un peu d'empathie pour ces femmes qui sont dans ces vidéos, qui sont des femmes réelles, qui existent réellement. Il faut savoir quand même aujourd'hui que le degré d'inhumanité de l'industrie porno est tel que depuis un mois, la tendance en vogue sur Pornhub, ces femmes ukrainiennes. Donc, exactement la même chose que pour la prostitution, où il y a un certain nombre d'articles qui sortent dans la presse allemande pour montrer que des proxénètes sont en train de faire du rabattage de femmes ukrainiennes qui, poussées par la détresse et l'exil de la guerre, se retrouvent dans des bordels en Allemagne ou ailleurs, et ben, sur Pornhub, la top tendance depuis un mois, c'est femmes ukrainiennes. Et donc, vous pouvez même trouver des scénarios de guerre. Donc, c'est ce que je regardais ce matin, excusez-moi. Donc, vous pouvez trouver, par exemple, un titre typique de vidéo qui tourne en ce moment sur Pornhub, « Coq russe a déchiré les putes du cul, la vraie histoire des Ukrainiennes ». Ça, c'est aujourd'hui complètement mainstream sur Pornhub. Donc, on a des scénarios avec des hommes déguisés en soldats russes qui violent des femmes ukrainiennes. Ça, vous le trouvez en deux clics et c'est accessible pour vos enfants et c'est sur ça que vos enfants font leur éducation sexuelle. Donc, nous, on essaie de faire un petit peu ouvrir les yeux sur la société et je pense que la première étape, c'est enfin d'avoir, recréer une empathie pour ces femmes. Ce sont des vraies femmes qui ont subi des violences inouïes. Et c'est ça que va montrer le procès. Malheureusement, on n'est pas beaucoup aidé, puisqu'on est un peu tout seul, association féministe, à porter ce sujet-là. Alors, il y a ce rapport parlementaire du Sénat qui, j'espère, va nous aider. On n'est pas du tout aidé par les pouvoirs publics. Ça, c'est plus problématique. Vraiment, aujourd'hui, le gouvernement ne fait à peu près rien sur cette question de la pornographie et ce n'est pas faute de leur adresser des warnings et des interpellations. Et puis, de l'autre côté, il y a la question de l'illégalité des contenus. Je vous ai dit, on a aujourd'hui ce qui est qualifiable pénalement comme des actes de torture et de barbarie. Alors, nous, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut dire aux féminismes ? On a fait un travail fastidieux, c'est qu'on a relevé plus de 2000 vidéos qu'on estimait illégales. Donc là, les vidéos de viols de guerre, les vidéos de fantasmes familiales à base d'inceste, et puis aussi beaucoup de vidéos d'apologie de la haine raciale. Parce que la pornographie, en plus d'être sexiste, est raciste. Il y a toujours une catégorie sur Pornhub qui s'appelle interraciale. Et le scénario de l'interracial, c'est simple, c'est souvent un homme noir présenté comme un monster dick, ça veut dire bite énorme, donc il est un animal et qui va saisir brutalement une femme blanche, parce qu'on sait bien que les hommes noirs sont des animaux. Donc vraiment, encore là, un scénario extrêmement raciste. Et ensuite, les femmes sont classées par catégorie. Donc les Asiatiques, scénario de la soumise, les femmes noires d'un côté, les beurettes, qui est quand même un des mots-clés les plus recherchés sur les mots français. Donc vraiment de la pure racisme contre les femmes musulmanes, où elles doivent être souillées. C'est vraiment la question beurette qui va être souillée dans une cave. Ça, c'est par exemple un scénario extrêmement récurrent, et chez Jackie Michel, et chez Dorsen. À quel moment c'est acceptable ? C'est-à-dire qu'en dehors de la pornographie, ce type de propos, ce type de scénario, ce type de description de vidéo que je viens de vous faire serait instantanément retiré d'Internet, serait instantanément jugé illégal. Et là, sous prétexte qu'on met le mot pornographie qui a l'air d'être un mot magique et le mot cinéma, tout s'arrête. Et ces vidéos d'actes de torture et de barbarie, ces vidéos d'apologie de la haine raciale, de la haine sexiste et de la haine des femmes, on en a fait un recensement, donc je vous disais, pour revenir au point précédent, on en a recensé 2000. Vous imaginez, on y a passé des journées à recenser des vidéos d'une insoutenable. On a fait des signalements à Pharos en janvier. On est aujourd'hui, bientôt en avril, il ne s'est rien passé. Rien passé, tout est toujours en ligne, même la scène de viol de guerre. On avait, avant même l'Ukraine, il y avait déjà des scènes de viol de guerre. Tout est encore en ligne. On a un rendez-vous dans 3 semaines avec Pharos qu'on a demandé, bien sûr, pour leur expliquer. Donc, pour peut-être que tout le monde ne sait pas ce que c'est Pharos. Pharos, c'est un service au ministère de l'Intérieur où n'importe qui peut faire des signalements. Si vous voyez des contenus, par exemple, illégaux, par exemple, Daesh, par exemple, publie, met en ligne une vidéo d'une exécution ou n'importe quoi, ou une vidéo de torture, vous le signalez à Pharos, vous pouvez être sûr que très rapidement, en quelques minutes, il va y avoir une réaction, une vidéo va être retirée en ligne. Pour la pornographie, ça ne marche pas. Vous pouvez torturer une femme, si la vidéo est uploadée sur Pornhub, elle restera en ligne. On n'a aucune réponse de Pharos. On intervient auprès de l'ARCOM, on intervient auprès de la CNIL, et on a aujourd'hui un grand nombre de victimes, dont les vidéos des viols qui seront jugés comme des viols dans le cadre du procès qui est en cours, qui sont encore en ligne. Ça fait plus d'un an qu'on bataille sans succès pour faire retirer ces vidéos en ligne. Donc imaginez-vous 2 minutes à la place de ces femmes. Vous avez été piégées, vous avez été rabattues par un proxénète, vous avez été d'abord violées. Ensuite, on a exploité votre vulnérabilité pour vous violer à nouveau sur un tournage de vidéo porno en disant que la vidéo ne serait jamais diffusée hormis sur un site privé confidentiel au Canada, et en fait, elle se retrouve, cette vidéo, sur toutes les plateformes du monde. Et 10 ans après, 5 ans après, des années après, votre vidéo, elle est encore en ligne. Et la justice met en examen le producteur qui a fait cette vidéo, mais votre vidéo, elle est encore en ligne. elle est encore sur Xvidéo, elle est encore sur Xhamster, elle est encore sur Pornhub. Ça, c'est la réalité de ce que vivent les femmes qu'on accompagne aujourd'hui. C'est scandaleux. Moi, j'en ai... Voilà, j'ai une colère énorme. J'ai une colère énorme parce qu'en fait, on est... notre société est aveugle sur ce qui se passe dans la pornographie. On a les mêmes systèmes de proxénétisme et de rabattage que dans la prostitution. Sauf que la différence entre la prostitution et la pornographie, c'est que la pornographie, c'est la prostitution filmée. C'est qu'il y a la caméra en plus. Que ça devrait être une circonstance aggravante. Et qu'il n'y a aucun contrôle aujourd'hui des vidéos qui sont uploadées. C'est-à-dire, n'importe qui peut uploader n'importe quoi.
Olivier, Maud, tu es ancienne députée de l'Essonne, rapporteure de la loi du 13 avril 2020.
Pardon, voilà, donc je reprends. Donc, si vous voulez aider les victimes, donc aider dans cette lutte, vous pouvez contacter Oser le féminisme, bien entendu, comme vous l'avez entendu donc dans ce message de Céline Pic. Je vais faire une petite pause musicale avant de reprendre. Donc, je vais vous faire écouter Anne Aubonne. Parce que je veux terminer donc par la transmission justement du matrimoine dont j'ai parlé, qui est si importante pour les Amazones et pour moi aussi. Et donc je vais terminer de façon aussi un peu plus légère après ce sujet très lourd de la pornographie. Donc je vais vous faire écouter un petit podcast donc de Jacqueline Engrave, qui est présidente de Femmes Solidaires à Digne et qui a intervient sur une radio à Digne, je mettrai la référence, où elle fait les portraits de femmes du matrimoine. Et du coup, là, c'est sa dernière émission où, en fait, elle fait un petit bilan de tous les portraits. Et voilà, donc je vais vous laisser écouter.
Et on va commencer par la liste des 30 portraits que vous avez réalisés, Jacqueline.
Oui, nous allons égrener les noms des 30 femmes qui ont été présentées depuis avril 2021 à février 2022 sur la radio Fréquence Mistral de Digne 99.3, que je remercie pour m'avoir ouvert son micro. Merci beaucoup. Alors, nous commençons par la première. La première, ce fut Olympe de Gouges, écrivaine féministe guillotinée.
Hubertine Auclair, militante suffragiste.
Rosa Bonheur, artiste peintre animalière.
Alice Milla, sportive.
Émilie Duchâtelet, savante scientifique.
Louise Michel, institutrice communarde déportée.
Madeleine Bresse, médecin, première médecin française.
Séverine, journaliste.
Isabelle Eberhardt, aventurière.
Marie de Gournay, écrivaine.
Barbara, chanteuse, compositrice, interprète.
Simone de Beauvoir, philosophe, écrivaine féministe.
Germaine Taillefer, compositrice de musique.
Martha Desrumeau, résistante déportée.
Alice Guy, cinéaste.
Marie-Claude Vaillant-Couturier, résistante déportée.
Laurie Gnassienne, avant notre ère, femme préhistorique.
Clara Zetkin, journaliste politique.
Flora Tristan, écrivaine féministe.
Suzanne Lenglen, championne de tennis.
Christine de Pizan, écrivaine féministe.
Hypatie d'Alexandrie, philosophe assassinée.
Berthe Morisot, artiste peintre impressionniste.
Marguerite de Valois, reine de France et de Navarre, écrivaine.
Madame de Lafayette, écrivaine.
Alexandra David-Néel, exploratrice féministe.
Solitude, rebelle des Maronnes guadeloupéennes, exécutée.
Georges Sand, écrivaine.
Marie Curie, savante scientifique.
Et enfin Camille Claudel, sculptrice, internée 30 ans en asile d'aliénés.
Voilà donc les 30 portraits que nous avons présentés au cours d'une année, en fait, d'avril 21 à février 22.
Alors, on va revenir sur l'objectif de ces portraits que vous avez choisis, donc Jacqueline.
Oui, alors quel était notre objectif? Quel est encore actuellement notre objectif? Nous voulons parler du matrimoine, le féminin du mot patrimoine, l'héritage des mères, l'héritage des femmes, comme le patrimoine et l'héritage des pères, l'héritage des hommes, afin de construire un héritage commun, universel. L'objectif est de sensibiliser le public, c'est-à-dire celles et ceux qui nous écoutent, à la vraie place des femmes dans la vie de la nation, dans le monde, rendre à ces femmes toute leur visibilité. C'est un défi car les femmes ont été occultées de l'histoire. Elles ont été, comme je l'ai déjà dit, jetées aux oubliettes par les historiens, les chroniqueurs ou les philosophes plus ou moins misogynes, les rendant insignifiantes en dépit de leurs talents et les effaçant volontairement de notre mémoire collective. Or, nous voulons retrouver la mémoire, donner des exemples, notamment aux jeunes générations de filles et de garçons, des exemples pas uniquement ou presque uniquement masculins, mais aussi féminins, des exemples de femmes exceptionnelles qui ne figurent pas ou si peu dans les dictionnaires ou dans les manuels scolaires et auxquelles nous, les femmes, nous, les filles, pouvons nous identifier. Car nous ne sommes pas des personnes insignifiantes, aux préoccupations insignifiantes, comme les hommes historiens ont voulu le faire croire. Voilà, l'objectif, il est là.
Comment et pourquoi vous avez choisi ces 30 femmes-là plutôt que 30 autres ?
Oui, alors c'est un choix subjectif complètement et que j'assume comme tel, car effectivement, les femmes exceptionnelles sont très nombreuses, il y en a beaucoup d'autres. C'est aussi une variété de personnages touchant non seulement le domaine artistique, mais aussi scientifique, sportif, politique, comme on l'a vu quand on a égrené leurs noms tout à l'heure. Tous ces domaines d'action, sans distinction de classe sociale, d'âge ou d'autres, et allant de la préhistoire au XXe siècle. Quelques-unes sont connues, même très connues, comme Marie Curie, par exemple, mais pas à leur juste place, ni à leur juste valeur, et certainement pas par les jeunes générations. Ce sont aussi des Françaises, à deux exceptions près. Clara Zetkin, allemande, qui a inventé la Journée internationale des droits des femmes le 8 mars, et Hypatie d'Alexandrie, la philosophe. Alors, ce choix est basé, je voudrais quand même le signaler principalement sur les 30 portraits de femmes figurant dans l'exposition intitulée « Notre matrimoine » du journal Clara Magazine. On peut se la procurer auprès de ce journal, au siège, Maison des Ensembles, 35 rue d'Aligre, 75 012 Paris, clara-magazine.fr. Je peux même citer le téléphone 01 40 01 90 90. Voilà.
Alors, est-ce qu'on peut revenir sur les points communs de ces femmes ?
Alors oui, elles ont bien sûr, ces 30 femmes, des points communs, à commencer par leur qualité au pluriel. C'est leur talent, leur compétence, leur courage, leur persévérance, leur détermination, leur force et même leur résistance face aux moqueries, humiliations, mépris, à l'indifférence dédaigneuse de leurs collègues masculins, comme on l'a vu tout au long de ces portraits. Toutes dénoncent ce barrage, ces obstacles auxquels elles ont dû faire face sans toujours réussir, dépensant pour cela des efforts qui vont leur manquer pour entamer leur œuvre ou pour la poursuivre. Et la deuxième qualité commune, c'est que toutes insistent sur la nécessité absolue pour les femmes d'acquérir leur indépendance économique ou financière afin de ne pas dépendre d'un homme pour vivre. Toutes aspirent à vivre libre, ce qui ne veut pas dire, je m'empresse de le préciser, ce qui ne veut pas dire vivre sans amour. Et un troisième point commun, c'est que beaucoup d'entre elles, pas toutes, mais beaucoup d'entre elles sont plus connues, quand elles le sont, à travers un homme, leur époux, leurs amants célèbres ou leur père, frère célèbre ou leur Pygmalion. Par exemple, Émilie du Châtelet, c'est une femme savante, traductrice de Newton, mais on la connaît comme étant l'amie de Voltaire. Camille Claudel, sculptrice géniale, on la connaît comme amante d'Auguste Rodin et sœur de Claudel. Berthe Morisot, peintre, modèle d'Édouard Manet, épouse d'Eugène Manet, etc., etc. Et puis enfin, le quatrième point commun qui nous ramène au tout début de cette émission, elles sont pour beaucoup les oubliées, mises à l'écart par les historiens misogynes, peu étudiées, à quelques rares exceptions près, comme George Sand, par exemple, ou Madame de Lafayette, peu étudiées dans les programmes scolaires. Par exemple, les femmes préhistoriques, on ne les connaît pas, Alice Millat, qui la connaît, Alice Guy, qui la connaît, Madeleine Bresse, Germaine Taillefer, Martha Desrumaux, Solitude, voilà. C'est tout leur point commun que j'ai pu relever.
Est-ce qu'on pourra envisager de nouvelles séries de portraits ou...
Eh bien, si les auditrices et les auditeurs le souhaitent, si la radio Fréquence Mistral le souhaite, bien entendu, comme il y a beaucoup plus de femmes exceptionnelles que les 30 qui viennent d'être présentées, on pourrait envisager une seconde série en faisant une place aux femmes étrangères également, et notamment aux européennes, qui ont été aussi des femmes exceptionnelles. Voilà, donc on pourrait envisager...
J'étais là, et je mettrai la référence donc, des émissions de Jacqueline Engrave pour que vous puissiez écouter ces portraits, s'ils vous ont donné envie. Voilà, et je vous dis merci, à la semaine prochaine. Je repasse l'hymne des femmes, mais en espagnol, « Abelas Ainas ».
Nous qui sommes sans passé les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire, nous qui sommes sans passé les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire.
Nos que non temos pasado, mujeres, nos que